Bon, ben voilà, un beau film, mais il faut s'en remettre un peu. Tout d'abord, vous dire que les 400 coups nous ont proposé, ils le font souvent, d'enregistrer le débat. Donc, il faut que vous sachiez que si vous posez des questions, que vous voulez être anonyme, ben, ne dites pas votre nom. Mais pour nous, ce sera précieux d'entendre vos questions, les réponses. Voilà. Je vais donner la parole à Philippe Duverger pour qu'on se remette un petit peu et qu'il nous dise quelques éléments.
Ben bonsoir à tous. Et c'est vrai que c'est difficile peut-être de mettre des mots un peu sur les émotions que ce film nous a apportées. Enfin, je pense que chacun a été touché, voire ému. Je trouve, je ne parlerai pas de cinéma, mais je trouve que Comencini nous met dans la position de nous identifier à Andrea. Et donc on a l'impression, je dirais, d'être cet enfant qui a du mal à trouver sa place et qui essaye de transmettre des choses et qui n'y parvient pas. Et je trouve qu'il y a une grande solitude dans cette vaste maison. C'est vrai qu'il était architecte, hein, mais il a fait une immense maison, mais très vide, je trouve. Hein, et que heureusement qu'il y a le petit Milo qui met un peu de vie, qui met un peu de joie, qui met un peu d'enfance. Heureusement qu'il y a l'oncle Will qui vient aussi apporter un petit peu de folie, dans le bon sens du terme. Mais sinon, c'est vrai que c'est une immense tristesse, hein, c'est une grande bâtisse où, j'allais dire, chacun est très seul. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, et sûrement qu'on est tous un peu pris par tout ça. Mais je trouve que Comencini nous met dans la position de nous identifier à ce garçon, Andrea, et on traverse avec lui toutes les émotions, les désillusions, les tristesses, les moments difficiles. Et puis ça aussi, là, avec des moments plutôt de joie, et puis tout d'un coup, il y a un échec. Je trouve que, pour moi, en tous les cas, il y a une très belle démonstration de deux mondes. Le monde de l'enfance, et on le voit avec les jeux, avec les facéties, avec la joie des deux enfants, hein, qui sont entre eux et qui vont faire les mille bêtises. Un monde de l'enfance, et puis il y a un monde des adultes, et qui a une grande difficulté de communiquer. Il y a une grande difficulté de se parler, finalement, hein. Et de partager finalement des sentiments, des émotions et évidemment le deuil. Il y a vraiment une grande difficulté à parler de la mort, à parler du deuil, à parler de l'absence, on pourra en parler dans le débat, hein, mais ce père qui fait tout pour essayer d'accompagner ses deux enfants, mais qui le dit lui-même, hein, ne parvient pas avec Andrea à partager quelque chose. Ils ne partagent pas grand-chose, hein, si ce n'est la vie quotidienne, et ils ont du mal à s'entendre. Et puis ils ne parlent pas, puisqu'il faut rien dire à Milo, hein, de la mort de son épouse, donc c'est vraiment très difficile. Et on voit comment Comencini arrive à nous faire parler et échanger entre nous de la mort, parce que justement dans le film, on n'en parle jamais, sauf qu'elle est toujours là. C'est assez magique, hein, je voudrais pas parler trop parce que faut pas décortiquer un film aussi sensible, aussi magnifique, on pourrait dire, hein, et aussi compliqué. Hein, il nous emmène, il nous transporte, c'est bien que chacun puisse exprimer ses émotions et ce qu'il en pense. Mais c'est intéressant de voir c'est les années 67, hein, c'est ça. Enfin. Dans les années 67, comment finalement cette question de la mort était très tabou, hein, il ne fallait pas en parler, et surtout, il ne fallait pas en parler aux enfants. C'était vraiment le problème. Il fallait épargner les enfants, hein, il fallait qu'ils fassent leur deuil, mais sans qu'on en parle. Il fallait les mettre de côté, avec toute la bonne bienveillance, hein, c'était pour leur épargner la peine. C'était pour pas qu'ils soient tristes, c'était parce qu'on les pensait incapables de comprendre, et donc... Au nom de tout ça, on les écartait, on leur empêchait finalement de participer à des rituels symboliques qui leur aident à faire un deuil. Et on voit déjà dans les années 67, 70, 73, hein, que c'était la façon un peu de traiter la question dans les familles, de ne pas parler de ça, et surtout d'éviter aux enfants de participer à des cérémonies, à des deuils ou à des enterrements. Ça a quand même évolué, hein, mais je pense qu'aujourd'hui encore, ça reste très difficile. Hein. Qu'est-ce qu'il faut dire ? À partir de quand il faut dire ? Comment faut associer les enfants à tout ça ? Comment, en effet, les enfants, ils ont besoin qu'on leur parle ? Ils ont besoin qu'on leur dise des choses. Alors, sûrement pas les mêmes à un enfant de 4-5 ans, comme Milo, ou à un enfant de 12, 10, 11 ans, comme Andrea, mais voilà, comment les associer à ce processus de deuil ? Comment les accompagner ? Comment parler avec eux ? Alors, je ne veux pas parler de mon métier, hein, puisque moi, c'est de parler avec les enfants qui m'intéresse, mais c'est vrai que parfois, c'est difficile pour les parents, et on voit comment ce père est en difficulté. Voilà, mais c'est d'abord des émotions, hein. Beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager ça avec les autres, justement, pour pas qu'on reste dans le silence. En tout cas, je trouve que Comencini arrive à, malgré la grande tristesse, malgré le malheur qui s'abat sur cette famille, arrive à, de temps en temps, nous faire rire. C'est ça que c'est quand même très paradoxal, hein. C'est un drame absolu pour ces deux enfants, de perdre leur mère si jeune. Et pourtant, ils continuent à vivre, la vie continue, ils font des bêtises, enfin, ils restent des enfants. Et c'est important de les rencontrer, de les retrouver, hein, de vraiment être à leur hauteur. C'est ce que fait le père à la fin. C'est presque le seul moment où ils arrivent à se rencontrer et à partager quelque chose. Alors évidemment, ça nous touche à ce moment-là. Et comment ça soulage Andrea, tout d'un coup, d'être entendu, d'être compris et de pouvoir partager quelque chose avec son papa. C'est étonnant, hein. La rédaction, voilà, comment ils vont la finir ensemble. Enfin.
Moi, j'aurais une première question à Louis-Mathieu. Vous disiez tout à l'heure qu'en 67, donc le film à Cannes avait été décrié et hué, et que 10 ans après, il avait été applaudi. Alors, 10 ans pour une évolution de société, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qui a fait qu'en 10 ans, le film a été vu sur un autre regard ?
Alors, c'est un malentendu, comme il s'en produit quelquefois dans le cinéma et dans la réaction du public, des malentendus assez incroyables. Je pense à ce qui s'est passé avec le film Eyes Wide Shut de Kubrick, qui laissait entendre dans certains articles, dans certains documents de communication, que ça pouvait être un film érotique aux États-Unis. Et bien sûr, les premiers spectateurs qui l'ont vu, c'était que des hommes. Et ils ont été sacrément déçus. Et ça a été le bouche à oreille autour du film. Et il a fallu qu'en Europe, eh bien, au contraire, là, il n'y avait pas eu cette communication, il n'y avait pas eu ce reportage qui avait été fait sur une scène un petit peu chaude, comme on dit. Et donc, le film a connu le succès qu'il méritait. Et là, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire qu'on attendait de Comencini une comédie avec des curseurs un petit peu hauts sur... on aurait pu aller plus loin sur l'oncle Will, c'est sûr, hein, on aurait pu aller plus loin sur les bêtises des enfants, bon, etc. Que le curseur soit plus haut, et c'est ça qui était attendu par un public, je dirais, habitué aux films de Comencini, qui avait vu donc Don Camillo, qui avait vu Pain, Amour, Fantaisie, etc. Et voilà, décalage. Et il a fallu attendre 10 ans, une ressortie du film, pour que, quand même, il y a eu d'autres films de Comencini qui montraient cette capacité à traiter des sujets graves. Et là, le public n'était plus dans les mêmes attentes. Et il y a eu vraiment la même émotion que celle que, je crois, nous avons ressentie. Hein, parce que moi, je vous ai entendu à la fois rire à certains moments, mais il y a des moments où personne ne riait et je sentais que la respiration était coupée, quoi.
Et alors, je trouve que le titre du film est génial. C'est finalement l'incompris. Andrea n'est pas compris. Dans ses émotions, dans ce qu'il vit, dans tout ce qu'il traverse. Et je pense pour rebondir aussi que les critiques n'ont rien compris non plus. Et c'est ça, enfin, je ne sais pas, hein, mais que l'incompris, ce film porte sur l'incompréhension entre tout un chacun autour de la question de la mort. Hein. La mort, le deuil, finalement, on ne comprend rien à cette question de la mort. Hein. Tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'y croit. Enfin, on sait tous qu'on va mourir, mais on ne veut pas y croire. Enfin, il y a quelque chose d'incompréhensible hein, qui nous échappe. Et qui échappe qu'on ait 4 ans, qu'on ait 10 ans, ou qu'on soit adulte, et vraiment l'incompris, je trouve que c'est le meilleur titre qu'on pourrait donner, hein. On pourrait le mettre à tous les étages, et je pense que les critiques n'ont rien compris, et qu'il a fallu 10 ans pour comprendre. Enfin, c'est une interprétation, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'incompréhension, et puis de l'évolution, aussi, avec Dolto, avec plein de psychiatres et psychanalystes, mais de finalement penser qu'un enfant est une personne... Et qu'il faut s'adresser à lui, il faut lui parler et il faut l'écouter. Enfin, c'est tout ce qui s'est passé dans les années 70-80, où finalement le regard sur l'enfant a évolué. Je pense que ça participe aussi d'un changement de regard, enfin d'une façon de voir autrement les émotions d'un enfant, ce qu'il peut ressentir et comment c'est important de l'écouter et d'en prendre compte. Voilà, je crois qu'il y a aussi ce changement de regard sociétal, en tout cas chez nous, qui permet de voir ce film différemment entre les années 65-67 et les années d'aujourd'hui.
Et alors, ce qui s'est passé aussi, enfin, ce que nous raconte le film, c'est que le père s'est enfermé dans une lecture erronée de ce qu'étaient ses enfants. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris. Alors, il n'a pas compris que le plus fragile des deux, par rapport à cette question de la mort, c'était bien Andrea. Ça, il ne l'a pas perçu. Et il y a eu effectivement une absence de communication avec plein de circonstances qui ont fait qu'il n'y a jamais eu de rencontre vraiment, sauf le moment où il l'emmène dans son consulat, dans le bureau de son consulat. Mais il était question qu'il l'emmène même à Rome. Ça ne s'est pas fait au dernier moment. Voilà. Et c'est effectivement sur quand on enlève la bulle d'oxygène que là, il y a un rapprochement entre le père et le fils et qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que le père était dans cette idée qu'à 10 ans, Andrea était fort, solide comme un roc, prêt à faire face à cette question de la mort de la mère. Et pensait que le fragile, c'était le petit frère à 5 ans, 6 ans. Or, non, c'était Andrea qui était le plus fragile par rapport à ça. Et ça, il ne l'a pas perçu. Et si vous voulez, je pense que c'est quelque chose qui nous renvoie à nos propres expériences personnelles. C'est que la fragilité de l'autre, on ne l'aperçoit pas toujours. Et derrière l'audaciomètre, derrière des choses comme ça, les risques que l'on prend, on ne voit pas que c'est en fait une petite carapace dans laquelle on se protège, mais qu'au fond, il y a une très grande fragilité, une très grande inquiétude.
J'ai lu dans une des critiques que, en fait, la fin du film ne pouvait pas être « ça y est, le père et le fils se retrouvent et tout va bien ». Et qu'en fait, la mort et l'agonie, on peut dire, de cet enfant permettaient qu'il se retrouve. Le père voit plus clair et du coup la rencontre avec son fils se fait. Et que positivement, on peut dire que ça dit la force de la parole, entre adultes évidemment, mais aussi avec les enfants. Et que c'est plus fort ce message avec cette fin, cette mort de l'enfant à venir. Mais cette rencontre avec son père.
Et aussi... Ah oui, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Juste dire que, Comencini le dit lui-même, pour lui, cette maison, cette architecture du consulat, c'est l'image d'une société, d'une structure en crise, qui ne, ne figée et dans laquelle il y a l'incompréhension, donc effectivement, l'indifférence, le manque de disponibilité aux exigences de l'enfance, aux attentes de l'enfance. Et c'est des structures, finalement, les lésions sont mortelles, et la structure est mortelle aussi.
Oui, je voulais dire plusieurs choses. Le fait que ce soit un consul anglais, est-ce que ça n'ajoute pas justement cette obligation de se tenir, de ne pas s'exprimer, et d'empêcher l'enfant de s'exprimer, parce que ça a été très dur. Il l'a coupé de son frère, en quelque sorte. Il l'a coupé en imposant un non-dit sur la mort. C'est terrible. Il n'avait pas d'autre solution que d'avoir des conduites à risque, qui étaient peut-être des appels à l'aide. Ou la recherche était quasi suicidaire tout le temps.
Je pense, oui, les conduites à risque sont des appels au père. Enfin, pour nous, c'est-à-dire finalement d'attirer l'attention, d'essayer d'attirer l'attention qu'il ne parvient pas à attirer dans la vie de tous les jours. Oui. Et les conduites à risque sont aussi une manière, finalement, et il y parvient à la fin, de retrouver sa mère. Avec le miroir, Comencini nous met à la fin le père, la mère et l'enfant, dans une image où ils se retrouvent, où ils se réunissent. Et comme si finalement, Andrea, déjà au milieu du film, il dit... Pour retrouver maman, il faut fermer les oreilles, fermer les yeux, et la voir. Hein. Et là, à la fin, il ferme les yeux définitivement, et on a envie de penser qu'il la retrouve dans l'imaginaire, évidemment, puisque c'est un mythe. Mais il y a quelque chose, en effet, là, vous avez raison, une société qui fait que on ne parle pas, on ne s'autorise pas à pleurer, alors qu'il faut pleurer, ça fait partie de la vie. Si l'enfant ne voit pas ses parents pleurer, il ne peut pas comprendre qu'ils sont tristes. Enfin, et pourtant, on voit bien ce père qui retient toutes ses émotions et qui demande à Andrea, lui aussi, de retenir toutes ses émotions. Fais comme moi. C'est comme si, finalement, c'est comme ça que tu serais fort. On a une impossibilité à penser et à rapprocher deux mots, enfant et mort. C'est insupportable, que ce soit en pédiatrie ou au CHU, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit de mettre en même temps enfant ou enfance et mort, il y a quelque chose d'impensable. On ne veut pas, on ne supporte pas, c'est pas possible, c'est inadmissible, c'est injuste. Et donc on voit bien là qu'à ce moment-là, on ne peut pas en parler. Et en plus, quand on est diplomate, on a un droit de réserve, si je puis dire, qui fait qu'on ne doit pas montrer ses émotions. Oui, ça participe de ça, vous avez raison.
Moi, ce que j'ai vu dans ce film, et je trouve qu'il nous montre, Comencini, comment les enfants avaient de toute façon bien compris, à des moments différents, bien sûr, l'aîné l'avait entendu et compris très vite, et le petit, à un moment, l'a exprimé, « Maman est morte », et personne ne l'a écouté. Et là, je me disais, en fait, c'est un peu notre difficulté. Si on écoutait vraiment ce que les enfants nous disent, maladroitement peut-être, eh bien, on arriverait à communiquer et à pouvoir en parler.
Mieux, bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais des fois, on n'a pas envie d'entendre. Mais vous avez raison, comment ils en parlent. Et comment d'ailleurs, que ce soit Milo à sa manière, ou Andrea, parce qu'il est plus grand, bien sûr qu'ils savent ce que c'est la mort. Bien sûr qu'ils savent que ça existe. D'ailleurs, ils jouent aux cow-boys, aux indiens, ils jouent dans les jeux vidéo. Enfin, maintenant, ils enterrent les animaux. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'ils savent ce que c'est la mort. Avec, en fonction de l'âge et de la maturité, des compréhensions différentes. Mais bien sûr, bien sûr. Ce serait d'ailleurs ne pas leur faire honneur que de penser qu'ils ne sont pas capables de penser ça et de s'ajuster, de s'adapter. Et de faire un travail de deuil.
Oui, je voulais justement rajouter quelque chose à cette notion de regard d'enfant. Il m'a semblé que le nœud du film, pour le nouer la relation entre le monde des adultes et le monde des enfants, c'était le passage où le grand, au moment de l'orage, répond aux questions de Milo, en lui dépeignant le monde dans lequel vit sa maman. Un grand parc, des cygnes, elle fait des tartines beurrées, etc.
Il a trouvé les mots, donc dans sa complicité d'enfant avec le petit frère, pour exprimer la notion de mort. En même temps, il se rassure, mais en même temps, il a vraiment gardé ce regard d'enfant. Et je crois que le film nous pose la question, nous, je pense à l'association Paroles Croisées, comment on n'arrive pas à retrouver cette espèce de regard d'enfance, cette simplicité, cet émerveillement, et qui fait qu'on peut en parler avec les enfants et pour les enfants. Et c'est la meilleure façon d'en parler aussi pour nous. Donc le chemin, je crois, à travers ce film, c'est aussi de garder notre esprit d'enfant. Et la petite, confirmation que j'aurais à cette hypothèse, c'est qu'à la fin, Milo arrive, son frère est en train de mourir, vient de mourir sur le canapé. Je peux l'embrasser? Si je l'embrasse, il va se réveiller? On est dans un conte. Et évidemment, là, il s'aperçoit que, bon, non. Mais lui, il n'a pas saisi. Mais les adultes ont déjà saisi. Mais c'est quand même la parole de l'enfant qui donne la clé. Donc il m'a semblé que c'était ça qui était aussi important pour nous.
Absolument. Absolument. Ce qui rejoint ce que vous disiez juste avant, qu'est-ce qu'il faut les écouter? C'est ce que je fais toute la journée en consultation. Hein. Et vous savez, c'est incroyable quand on les écoute. À leur niveau, comment en effet ils nous apprennent tellement de choses. Hein. Mais écoutons les enfants. Soyons attentifs justement à leurs émotions et à leurs messages. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps.
Tant que le micro n'est pas arrivé, Pascal, moi je me dis aussi, quand il y a des fratries, on a tendance à peut-être protéger les plus petits ou vouloir protéger, ce qui est pas toujours, on le fait pas toujours bien, mais que par exemple, si Andrea avait un frère de 15 ans, on attendrait autre chose de celui de 11 ans, en fonction des. Je pense que vous avez dû voir des choses comme ça. Quelquefois, l'ordre dans la fratrie fait que on adultise un peu le plus grand ou on infantilise le plus petit. Enfin voilà, il doit se passer des choses comme ça.
Oui, tout à fait. Avec de plus en plus, pour autant, des parents aujourd'hui qui sont très attentifs à ce que peuvent vivre les enfants. Hein, mais justement, du fait de cette attention, veulent plus ou moins les protéger en fonction de leur âge, en fonction de leur rang dans la fratrie, etc. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse participer au processus de deuil. C'est-à-dire qu'on puisse le partager, pas de la même façon. On ne va pas faire embrasser un enfant de 4 ans un cadavre, puisqu'il faut utiliser les mots. Hein, donc, mais ça ne l'empêche pas de participer à la cérémonie de deuil ou à un moment donné. Donc je crois qu'il faut associer les enfants à ce qui se vit dans la famille, en fonction de leur éveil, de leur développement, de leur maturité, des expériences. J'ai pu voir, moi, évidemment, des enfants qui eux-mêmes ont pu mourir hein, de maladies, de cancers, hein, dans les services d'oncologie pédiatrie. Il y a des enfants qui décèdent hein, régulièrement. Et donc, on voit bien là comment les enfants sont très sensibles et savent très bien ce que c'est que la mort. Ils le savent. Donc, ne pas les écarter sous prétexte, en effet, qu'ils sont petits, qu'ils sont moyens, qu'ils sont plus ou moins grands, qu'ils seraient capables de comprendre. Non. Partageons avec eux ben, notre tristesse. Besoin, les enfants, de voir que les parents ils sont tristes. Hein. Ce serait d'ailleurs aberrant de penser que quelqu'un qu'on aime beaucoup est mort et qu'on ne pleure pas. C'est pas grave de pleurer. Ça fait partie de la vie. Après, évidemment, il faut sortir de cette fascination de la mort et pouvoir justement penser à autre chose et partager autre chose. Mais il faut aussi partager ces moments-là.
Je voudrais revenir sur l'incompréhension du film dont vous avez parlé tout à l'heure en abordant le problème de Eyes Wide Shut, qui avait été mal compris. Cela dit, j'ai l'impression que la comparaison entre l'incompris et Eyes Wide Shut me paraît un peu triviale. En revanche, s'il y a un cycle où les choses évoluent, se retournent, d'abord, on a beaucoup de mal à accepter qu'une œuvre soit à la fois comique et tragique, mais celui qui a réussi son coup et qui parfait totalement le travail de Comencini, c'est Benigni dans La vie est belle. Parce que vous avez les mêmes problèmes dans des conditions totalement différentes. La mort, la mort d'un parent, la mère survit, mais le père meurt à la fin. Et le père protège totalement son gamin avec la fameuse arrivée du char, puisque on lui avait promis un char et il a son cadeau. Et alors que Benigni avait une peur terrible d'un échec, ça a été un succès immédiat, y compris en Israël et dans la population juive. C'est tout ce que je voulais dire.
Alors, beaucoup de choses ont été dites j'étais en train d'élaborer entre Madame Devant et puis Philippe Duverger. Moi, je ne dirais pas que les deux enfants, que l'aîné était plus fragile que le plus jeune enfant. Le plus jeune enfant, il sait que sa mère est morte, hein, et il le dit effectivement, je reprends ce que disait Madame. Kubler-Ross disait très justement, les enfants ont une conscience intuitive des choses de la vie et de la mort. Il n'y a pas besoin des mots pour sentir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe pour ce jeune enfant? Tout est refoulé, finalement. Parce que rien ne se dit. Et comment il peut grandir? Moi, j'ai accompagné des personnes endeuillées également. Les enfants aussi. Qu'est-ce qui se passera quand l'enfant sera adolescent? On peut s'imaginer. Pour l'aîné, je laisse débattre, peut-être en parler avec Philippe Duverger par rapport à ça, et puis je continuerai après éventuellement. Oui, allez-y.
Je veux juste dire que quand...
Alors, je continue à ce moment-là. Alors, par rapport à l'effet de protection, vouloir protéger le plus jeune par rapport à l'aîné, qu'on responsabilise énormément, le père le responsabilise, il lui demande de taire la mort, c'est terrible pour un enfant de 10 ans, 10, 11 ans, c'est terrible. Parce que le père, comme cet enfant de 10 ans, ils sont dans un état de sidération. Le père, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus comment faire avec ses enfants, pour parler de la mort de sa femme. Donc pour l'enfant, c'est très lourd, effectivement, pour cet aîné. Les conduites à risque, c'est tout au long du film. Depuis le début, il y a un appel au père, permanent. Et le père ne peut rien entendre. Il ne voit rien, il n'entend rien. Il est toujours dans cet effet de sidération par rapport à ce que vivent ses enfants, finalement. Il est avec ce manque terrible de l'absence. Et il est perdu. Il est perdu. Il n'a plus de repères, lui aussi. On voit bien la perte de repères.
Oui, je disais que peut-être, en effet, c'est une hypothèse, ce père qui a beaucoup de mal lui-même à vivre ce deuil demande à son fils aîné de finalement assumer une fonction que lui-même a du mal à tenir. Et c'est vrai que je ne sais pas si Andrea est fragile. En tous les cas, Andrea est empêchée de justement pouvoir faire ce deuil. Et donc, c'est insupportable, c'est impossible. Et comme c'est insupportable, il devient insupportable, si je puis dire. Et il insupporte son père, alors qu'il passe son temps à maladroitement essayer d'attirer son attention. Mais ce que je trouve, c'est qu'on peut le décortiquer dans tous les sens, ce film, et trouver des raisons. Ce que je trouve génial avec Comencini, c'est que, avec délicatesse, avec vraiment une grande façon un petit peu de manier la caméra, il nous met à hauteur d'enfant. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas un cours ou une théorie ou une démonstration. Il nous filme un moment de vie à travers le regard de l'enfant. Et on voit aussi bien, en effet, Andrea, comment il est empêché, hein, comment il est en panne pour appeler son père et comment il fait les mille et une facétie pour attirer son attention et comment Milo essaye de mettre de la vie à sa manière. Voilà. Mais c'est génial de filmer à hauteur d'enfant, de se représenter finalement. Et là, il avait perçu ça comme Mancini. C'est pour ça que je vous rejoins en disant c'est un cinéaste de l'enfance. Il filme à hauteur d'enfant et comment l'enfant, Andrea en l'occurrence, voit son père et comment il souffre de cette difficulté à le rencontrer.
Et je voulais juste préciser tout à l'heure, avant que le micro tombe en panne, que en fait, ce n'est pas effectivement un enfant qui serait plus fragile qu'un autre. C'est pas ça. C'est dans l'esprit du père il y aurait ce constat-là et ce jugement qui fait que le père se rend compte à la fin qu'il a fait une erreur. Mais en même temps, on voit à quel point il est atteint par ça. Et il filme, effectivement, je suis complètement d'accord avec ça, à hauteur d'enfant, mais à hauteur aussi du père. C'est-à-dire que on partage l'intériorité des personnages et sans procéder, je dirais. C'est-à-dire que c'est simplement des gestes, des attitudes, le père qui ne se rase pas, des petites choses comme ça, des petits détails qui nous permettent de nous mettre à la place, de partager ce qu'ils ressentent.
Oui, alors oui, j'espère que ça marche, c'est bien. Oui, ce qui m'a frappé dans le film, tout au long, c'est, et puis ça va crescendo bien sûr, c'est le poids du secret. Le secret, il est présent dès le départ, puisque le père demande à ce que la mort de sa femme ne soit pas dite. Et il y a un phénomène qui se produit, à savoir que Andrea se trouve accablé par une espèce de responsabilité que son père lui confie, si je peux dire, ou lui impose plutôt, mais en le laissant seul. Parce que l'élément que je trouve le plus révélateur à ce sujet, c'est le fait que le père écoute seul la bande magnétique sur laquelle il réécoute la voix de sa femme. Et Andrea va la découvrir tout à fait par hasard. Et à la fin du film, il dit à son père, « Tu voulais l'écouter seul. » Et là, il est très, très apparent qu'en réalité, le père a continué à fonctionner sans sa femme, enfin dans ce deuil, mais coupé totalement de ses enfants, qu'il ne fait en aucune façon participer ni à son chagrin ni au leur. Et donc, moi je ne trouve pas qu'Andrea soit si faible ou si fragile, mais il se trouve totalement abandonné, et non seulement il a perdu sa mère, mais en plus il n'a pas de père. En tout cas, il n'a pas d'adulte près de lui qui soit capable de lui dire la vérité finalement. Moi, je pense que ce secret s'accompagne d'un faux semblant permanent, et que ce faux semblant pour Andrea est insupportable.
Je partage totalement ce que vous dites. Cette question du non-dit fait souffrance, absolument. Et pour Andrea, ça le met dans une position insupportable et impossible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et on le voit bien en filigrane tout au long du film. C'est pour lui. Il a un mandat, j'allais dire, de taire la vérité, mais qui est impossible et insupportable. Comment peut-on ne pas parler de celle qui nous manque et à laquelle on pense toute la journée ou tout le temps, surtout dans cette grande maison vide ? Et oui, il y a quelque chose un peu du sentiment probablement d'abandon. Hein, il est abandonné à cette solitude et donc à ce deuil qu'il ne parvient pas à faire et qui le fait tant souffrir. Mais c'est là qu'on voit les mots forts qu'on utilise, hein, abandon, solitude, tristesse majeure. Enfin, on est vraiment dans des choses très compliquées à vivre pour un enfant de cet âge-là. Et il manque les bras d'un père, hein, pour le prendre dans ses bras et puis partager quelque chose. Et à propos de la bande magnétique, je trouve que c'est assez étonnant. Comencini fait en sorte que Andrea efface la bande, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'entend plus la mer, c'est le silence. C'est comme si c'était un meurtre symbolique. Hein. Il faut bien le dire, il faut bien le nommer, ce deuil. Enfin, et ben là, avec cet effacement, je dirais, de la parole de la mer, hein, tout d'un coup, elle disparaît encore, enfin une nouvelle fois, hein, alors de manière symbolique, mais on ne l'entendra plus jamais. Et donc, c'est une façon un petit peu très métaphorique, hein, de nous montrer comment ben Andrea tourne autour de cette question du deuil tout le temps, mais très, très seul, hein, dans une solitude qui est assez insupportable, même pour nous en tant que spectateurs. On a envie de le prendre par la main, quoi.
Je voulais vous demander... Vous avez dit tout à l'heure que les choses avaient évolué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. Enfin, nous, à l'association, on en a lu pas mal sur ce qu'il faudrait ou ce qu'il vaut mieux faire avec les enfants, ne pas faire, etc. Ceci dit, c'est pas toujours facile quand on est parent ou grand-parent. Ça n'empêche pas qu'on a des blocages de toutes sortes. Est-ce que vous, dans votre votre métier, enfin dans votre profession, vous rencontrez encore des personnes qui ont comme ça des blocages, du mal à parler à leurs enfants ou à leurs petits-enfants ?
Oui, absolument. Dans les consultations, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais ils savent qu'ils en ont une difficulté. C'est-à-dire que ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est qu'avant, il fallait taire. Et c'était comme ça, point final. Et donc, on n'en parlait plus. Alors que là, y a des parents qui, moi, me sollicitent, hein, ou mes collègues, en disant, mais qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment faut le dire ? Est-ce que finalement, on peut le dire tous ensemble ? Est-ce qu'il faut dire ça à cet enfant en fonction de son âge, ou faut pas lui dire, etc. C'est-à-dire que même si les parents ne savent pas comment en parler, ou ont beaucoup de mal à en parler, ils savent quand même beaucoup plus aujourd'hui que c'est quelque chose qu'on doit partager. C'est quelque chose qui est important, et que, oui, les adultes doivent faire ce travail de deuil, mais les enfants aussi, à leur façon. Qu'ils aient 4 ans, à 4 ans, on peut faire un travail de deuil. Alors, on va réinterroger la mort à 5 ans, à 10 ans, à 12 ans, on va retourner voir des photos, on va avoir besoin d'en reparler, etc. Donc, processus de deuil, ce n'est pas une chose qu'on fait dans l'année, puis terminé. Et on ne tourne pas la page d'un livre, et puis le chapitre est clos. C'est quelque chose qu'on revisite, bien évidemment. Et donc, même à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, alors, le concept de mort va évoluer. C'est-à-dire que, sans doute qu'à 4 ans, et d'ailleurs on le voit avec Milo, la mort c'est une absence. C'est une absence. Et une absence, et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Hein, c'est ça. D'ailleurs il passe son temps à l'appeler. Hein, je veux maman, bon. Et puis on passe à autre chose. Mais il y a une absence, il y a un manque, il y a un vide. Et puis après, petit à petit, ben, y a les concepts d'irréversibilité. C'est irréversible, la mort. Hein. C'est pas à 4 ans qu'on le sait, ça. Hein. C'est plutôt vers 5-6 ans. Et puis, c'est irrévocable. C'est-à-dire que même si on veut pas, c'est comme ça. Hein. On va tous mourir. Parce qu'avant, il n'y a que les vieux. Qui, hein, quand on a 5 ans, c'est papy qui est mort. C'est les vieux, quoi. C'est ceux qu'on voit à la télé, mais c'est pas nous. Donc, c'est irréversible, c'est irrévocable. Et c'est universel. Hein. On va tous y passer. Enfin, ça, c'est vraiment vers 8, 9 ans, 10 ans. Mais tout au long de l'enfance, on parle que de ça, de la mort, avec les fantômes, avec les squelettes, avec les jeux d'enfants, les cow-boys, les indiens. La mort est présente dans les jeux d'enfants. Alors, je ne vous parle pas des jeux vidéo, hein. Mais bien évidemment. Aujourd'hui, on disait d'ailleurs qu'aux États-Unis, hein, un enfant de 10 ans a déjà vu plus de 1000 morts à la télé. Donc, cette question de la mort, il ne faut pas croire qu'ils ne savent rien là-dessus, ils en parlent entre eux. Donc, associons-les justement à ce travail de deuil quand il survient dans une famille. Ça, c'est très, très important en fonction de l'âge.
Et il y a quelques années, on avait fait une rétrospective sur le secret. Et on avait vu à travers beaucoup de films comment faire secret, c'est en fait exclure quelqu'un. Ne pas partager quelque chose, c'est en fait le renvoyer, cliver, couper une relation possible. Et c'est quelque chose de grave. Je pense aussi à l'évolution, par exemple, sur l'origine des naissances, hein, la question de l'adoption. Je sais qu'il y a seulement 50 ans, ont caché aux enfants leur origine. Et ça, c'est quelque chose qui, maintenant, n'est plus possible. Quoi. C'est, voilà. Enfin, c'est le discours commun qui est tenu. Non, hein, l'origine d'un enfant, il doit la connaître, il doit savoir le plus de choses, il doit avoir le même savoir que les parents. Et il n'est pas question de couper, de séparer. Secret, il y a séparé, hein, la même chose. C'est de faire de cela un secret. Et la mort, c'est la même chose.
Il y avait une posture qui était appelée du courage, c'était on serre les dents, on fait comme si et on ne parle pas. Ça a été une posture qu'on a connue, nous, de gens. La peur que si on parle des choses, elles envahissent trop. Et on préfère mettre des coussins dessus.
Alors que là, on n'en parle jamais, mais on ne pense qu'à ça. On le voit bien, hein, tout le monde tourne autour de cette question de la mort. En effet, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'en effet, elle va envahir tout le champ, bien au contraire. Bien au contraire. Mais il y a, je dirais, avec les enfants, il y a des livres maintenant pour parler de ça. Il y a des jeux. Et les enfants trouvent des solutions. Hein, les classiques, mamie est morte, alors ça fera une étoile de plus dans le ciel. Hein, mamie, elle est au ciel. Alors après, il y a les croyances. Il y a tout ça, hein, autour de la mort. Mais c'est vrai que c'est important d'aider les enfants à trouver des solutions par rapport à ça.
Plusieurs résonances du film. Les seuls qui parlent de la mort, finalement, ce sont les enfants, soit entre deux et de façon tout à fait naturelle. Et à la fin aussi, Andrea qui dit « j'ai pas peur de la mort » et qui l'affronte d'une certaine façon. Alors ça, c'est une première résonance. La deuxième, c'est autour du mot « incompris ». Je pense que dans toute relation, il y a de l'incompréhension. Et que ce que je trouve très très fort dans le film, et pour moi c'est pas lié que à la mort de la maman, au deuil et au fait qu'on n'en parle pas, c'est aussi la différence d'attitude du père envers ses deux enfants, et avec pour moi une violence symbolique du père par rapport à l'aîné, qui est en demande affective très 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 forte. Et alors une question, parce que ça me frappe aussi de voir comment la quête affective aussi forte peut rendre soumis, docile. Le fait que l'enfant dise « si papa, si papa », ça me questionne beaucoup.
Mais c'est qu'il a peur de ne plus être aimé.
Oui, mais ça me...
Et donc il va se soumettre pour justement être le meilleur aux yeux de son père, pour ne pas le perdre.
Oui, mais c'est pas... Enfin, j'attendais pas là une réponse, là, c'est plus... des enjeux, des relations qui peuvent conduire à. Et je trouve que c'est fort aussi comme question. Quoi.
Non, mais tout à fait. Hein. Et on voit comment ce père, qui est très intelligent, hein, qui est diplomate, qui a, je dirais, un niveau intellectuel qui pourrait comprendre... finalement, mais qu'il ne peut pas. C'est sans doute, ça renvoie probablement à sa propre souffrance, lui, d'un deuil impossible et donc indicible. Faut pas en parler, parce que peut-être que d'ailleurs, s'il se mettait à en parler, il s'effondrerait. Et qu'en tant que diplomate, c'est pas possible. Donc c'est pour lui qu'il faut taire les choses. Mais c'est vrai que Andrea, finalement, répond à ce mandat qui lui est imposé de se taire, d'être dans le secret. Alors le secret, finalement, ça, y a ceux qui sont dans le secret et ça clive parce qu'il y a ceux qui ne le sont pas. Alors que Milo, évidemment, c'est un secret de Polichinelle, hein, on pourrait dire, hein, puisque tout le monde le sait. Mais c'est une violence symbolique, moi je vous rejoins, hein, qui ça fait violence à Andrea et finalement à la fin, il se fait violence, hein, et malheureusement de manière dramatique. Mais c'est vrai que on essaye d'expliquer tout ce film et finalement, je ne sais même pas s'il y a besoin de l'expliquer tellement la qualité du film et de son, enfin du cinéaste, nous explique tout ça finalement simplement avec des images. Moi, je suis toujours étonné de comment, sans mots, sans en parler comme on le fait, on comprend tout. Enfin, je veux dire, on voit comment finalement on est traversé par les émotions et comment tout ce qui se joue là, c'est évident. Mais pour autant, pour ce père, il passe à côté.
Alors moi, je voulais dire que je ne pense pas que le père est si manquant que ça. En fait, il cherche pour lui et il rencontre aussi... il fut un temps dans le passé, on ne parlait pas. Et maintenant, est-ce qu'on ne souffrirait pas de l'injonction à la parole ? Il faut que les enfants parlent, il faut qu'ils s'expriment, enfin, il faut que tout le monde s'exprime sur la mort, etc. Il faut faire son deuil. Moi, j'avais torturé une citation de Victor Hugo, enfin, une petite phrase poétique de Victor Hugo. L'œil était dans la tombe et regardait qu'à un. Et moi, je l'ai transformé et j'ai transformé même Victor Hugo. J'avais mis Victor Ego. Et j'ai dit, le deuil est dans la tombe et demandait câlin. En fait, moi je suis enseignante et j'ai vu beaucoup d'incompris. Au moment de la grande section, il y a beaucoup d'enfants, les aînés, qui regardent leurs petits frères qui sont dans les bras et qui ne sont pas compris par leurs parents. Et ils ont le fantasme que les parents ne les aiment pas. En fait, ils sont toujours occupés, ils s'aveuglent par les soi-disant besoins des plus petits et on passe son temps à s'aveugler. Et je trouve que l'incompris, si on s'identifie autant à ce film, je crois que c'est le deuil que chaque humain fait dans les malentendus de la vie et des rencontres qu'on peut faire avec les autres humains. C'est que nous sommes tous des incompris et nous sommes dans les malentendus. Et je trouve que ce film est plutôt joyeux, c'est que quelque part, il y a eu une rencontre. En fait, le père a rencontré son fils et ils se sont enfin rencontrés. Après, le film ne nous dit pas ce qu'il sera par la suite pour le plus jeune.
Mais je suis complètement d'accord avec vous. Il y a juste pour qu'ils se rencontrent, il a fallu que Andrea meure. C'est ça le problème. Et que finalement, on aurait tous eu envie que peut-être les choses ne se passent pas autrement, hein, mais que finalement, cette incompréhension puisse à un moment donné céder à autre chose. Et vous avez raison, il ne faut pas parler, c'est ce que j'ai dit juste avant, hein, que de parler, ce n'est pas ça qui va nous faire forcément avancer. J'ai dit partager. Et je pense que c'est différent et que parfois, il n'y a pas forcément de multiplication de la parole, mais que j'ai bien dit qu'il ne fallait pas faire un deuil, il fallait même du temps pour comprendre ce qui se passait. Et que bien évidemment, qu'il y a de l'incompréhension à tous les étages. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se parle. C'est pour essayer de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on réussit.
Ce qui est intéressant, c'est l'image de la bulle. En fait, nous sommes tous dans notre bulle. Et à la fin... Andrea, il quitte sa bulle pour retrouver son père.
Mais c'est vrai qu'on a tous été, je pense, bouleversés par des échanges de sourires, par exemple. Et ce n'est pas de la parole. Donc des attitudes, non, des regards, voilà, une communication non verbale.
L'image sans mots est parlante, ne serait-ce que l'affiche. Quand on regarde l'affiche du film, tout est dit, je trouve. Hein, il s'appuie sur un bâton, hein, il se béquille comme il peut, et puis il appelle, quoi. Hein, il essaie d'attraper quelque chose dans sa quête affective, je pense.
C'est pas dans le film. Et alors, une chose... Enfin, j'hésitais vraiment à le dire, mais pour Comencini, à la fin, Andrea, il est pas mort. On sait qu'il peut mourir, mais il n'est pas mort. Voilà. Alors c'est Comencini qui le dit. Et on sait très bien que l'œuvre n'appartient à personne, hein, et que Comencini peut penser quelque chose, même si c'est lui le réalisateur, et que nous, on peut penser autre chose.
Donc c'est pas l'affiche... l'image n'est pas l'affiche du film.
C'est pas dans le film.
Non, elle n'est pas dans le film, effectivement. Mais bon, je trouve qu'elle elle dit tout, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Hein. Mais c'est pas un travail, hein, de rencontrer les enfants, mais c'est quelque chose, en tous les cas, qu'on... je le vois, moi, dans les consultations, qui n'est pas inné. On peut passer à côté des enfants sans les voir. Et c'est ça l'intérêt du film, c'est que justement, il prend le temps de se mettre au niveau de l'enfant et de nous faire partager ce que le père n'arrive pas à partager avec son fils. C'est ça que je trouve très fort au niveau de cinéma.
Bon, on va peut-être prendre une dernière question, parce qu'il y a des gens qui partent et oui. D'autres qui peut-être se lèvent tôt demain.
Oui, moi, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur par rapport à la fin du film. Moi, c'est vrai que j'ai été un peu... J'étais pas sûr qu'il soit bien mort. Et je trouve qu'il y a un décalage, justement, avec cette photo-là. Parce qu'on pourrait imaginer, en le voyant comme ça, qu'il est en rééducation, parce qu'il a une canne, qu'il s'en est sorti. Enfin, je trouve qu'il y a un décalage entre l'image et la fin du film, quoi. Et aussi, je voulais aussi dire, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça, c'est la concurrence entre les deux frères, en fait. Le fait qu'il y ait une concurrence pour attirer le regard du père. Et donc, voilà, quand Milo, il spolie un peu, il empêche son frère de partir à Rome. Enfin, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que vous, dans votre métier, est-ce que vous identifiez ça, cette concurrence entre la fratrie, de frères dans la fratrie?
Au quotidien. Cette rivalité, je trouve que chacun à leur manière essaye d'attirer l'attention. Milo a perdu sa maman, il le sait. Donc avec qui il va faire relation. Enfin, il a besoin de l'autre, et c'est pas la nourrice. La nourrice ou la servante ou la dame de compagnie ou la gouvernante. Enfin bon, c'est pas elle, parce que ils sont complices aussi. Hein. Ils sont rivaux, mais ils sont complices. Et c'est vrai que c'est magnifique. Enfin, je veux dire, Comencini nous fait partager, je dirais, les jeux de l'enfance. Et c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on reste quand même, malgré le fait de ce drame, dans quelque chose qui relève de l'enfance. Mais bien sûr, oui, Milo essaye d'attirer l'attention à sa manière. Andrea essaye aussi à sa manière d'ado, enfin de pré-ado, et chacun à leur façon exprime ce qu'ils peuvent. Hein. C'est pas forcément calculé, c'est comment spontanément. Ce ne sont pas des acteurs, j'aimais bien ce que vous disiez, ce ne sont pas des acteurs, ce sont des enfants. Et donc, ils vont être filmés dans leur vie, dans leur rivalité, dans leur complicité. Et c'est fréquent, oui, dans les consultations, de voir comment, ça rejoint ce que vous disiez aussi, les petits vont attirer l'attention quand on s'occupe des grands, et vice-versa.
Mmh. Oui, mais ça peut être très difficile après... le vécu dans la fratrie, cette concurrence qui n'est pas exprimée, qui n'est pas accompagnée,
qui n'est pas accompagnée. C'est peut-être là aux parents peut-être d'être attentifs et d'avoir des temps un petit peu plus privilégiés, plutôt avec le petit, plutôt avec le plus grand, enfin ou la plus grande. En tout cas, d'avoir des temps qui permettent justement ces rencontres, hein, et ces moments de tendresse, de partage d'émotions, et donc de savoir un petit peu ce que vit l'autre, Parce que c'est ça qui est important. Comment l'autre vit.
C'est pas souvent le cas. Des fois, le parent qui reste, il n'a pas le temps, justement.
Ouais, il doit, mais qu'est-ce que c'est précieux.
Il doit assurer plein de choses. Et voilà.
Absolument. Vous avez raison, mais il ne faut pas que ce soit une excuse. Mmh. Bien, vous avez raison. Hein, la vie d'aujourd'hui fait qu'on peut être accaparé. Le film, là, peut-être une des leçons, c'est de penser que qu'est-ce que c'est précieux. Qu'est-ce que c'est. Parce que là, finalement, si Andrea est décédé, Milo, il a perdu et sa mère et son frère. Donc qu'est-ce que c'est important quand même, ces moments-là, j'allais dire, hein, qui font notre histoire. Donc ne les occultons pas au nom d'une vie tumultueuse et toujours prise dans des choses à faire.
Et puis le film montre à quel point on existe toujours dans le regard des autres. Et bien sûr, le moment où ce cadeau qui est fait de la photo, hein, enfin des deux photos, hein. C'est magnifique ça. Hein, voilà. Comment ce moment difficile où l'un a le sentiment de ne pas exister autant que l'autre, ce sont les enfants eux-mêmes qui le résolvent par l'idée d'un cadeau photo. Et voilà, hein, chacun a sa photo.
Le petit se l'approprie un peu aussi. C'est là aussi qu'il joue aussi de capter son père. On va peut-être terminer là. On s'est mis dans le coin parce qu'on n'est pas ébloui par l'écran, hein, c'est pour ça. On va vous remercier de votre attention jusqu'au bout. Et notre association Paroles croisées autour de la mort, ce soir, elle a rempli ses objectifs. Il y a d'autres événements prévus bientôt. Je vais laisser la place à Jean-Pierre pour le prochain. Et puis, voilà.
Oui, bien, d'abord, un grand merci, je trouve, à nos deux intervenants principaux. Donc, moi, je suis chargé au nom de l'association à vous convient un autre moment fort qui aura lieu donc le 21 mai à partir de 18h30. Maison de quartier Les Trois Mâts, ce sera autre chose, mais je pense que ça sera aussi fort. De quoi s'agit-il en deux mots, hein ? C'est le témoignage vécu par trois de nos concitoyens et concitoyennes, j'emploie le mot à dessein, puisque ce sont trois personnes qui ont été tirées au sort et qui ont participé à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Donc il y a Julien qui est à Nantes, qui viendra exprès, et deux autres personnes, une du Maine-et-Loire et une de la Sarthe, donc deux citoyennes qui ont participé au processus. Et on insiste beaucoup justement pour cette soirée, non seulement sur le thème de la fin de vie, puisque c'était l'objet de la Convention citoyenne, mais aussi sur ce processus démocratique et participatif. Voilà, j'en dis pas plus. Donc, 21 mai, 18h, au 3 mai.
Voilà. On va remercier Philippe Duverger, Louis Mathieu. Et aussi les 400 coups qui nous font toujours un très bon accueil et nous permettent de vous proposer ces soirées. Il y aura d'autres ciné-débats. On ne se donne pas un calendrier, on veut une qualité de film, une qualité d'intervenant, ce qu'on a eu ce soir, et puis un sujet qui donne à réfléchir. Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
Merci.